Bienvenue au Polysécur, épisode spécial Cyber-Éco. Je suis avec Andréane et Olivier. Comment allez-vous?
Ça va bien, toi?
Oui, ça va bien.
Moi aussi, ça va bien. Merci. Oui.
Oui, c'est approved.
Approved.
C'est bien, c'est approved. Vous avez présenté au Cyber-Éco l'état de vos recherches sur des kleptogiciels, parce que j'aime vraiment le mot que vous avez inventé. Sur ce qu'il y en est, on n'abordera pas le volet kleptogiciel lui-même parce que je pense que, en tout cas, du moins, j'espère que mon public a déjà une bonne connaissance, mais de votre vue que vous avez particulière que vous avez sur les données que vous avez capable de faire des recherches intéressantes. Fait, j'aime ça, un, voir scoper la recherche que vous avez faite, les données que vous avez, puis ensuite, ben, qu'est-ce que vous avez fait de cette dite recherche-là. Ne chicanez-vous pas avec le micro. Parce que là, malheureusement, j'ai juste un micro, là, juste pour le contexte.
On partage le micro, on va se battre. Fait que, peut-être, ben, je te le passe. Tu pourras compléter, Olivier. OK, mais je vais commencer. La recherche, le but de la recherche, c'était de faire du profilage de victimes. OK? Puis pas pour pointer le doigt envers quelqu'un ou personne, en fait. Le but, c'est de trouver les grosses tendances et de pouvoir aider puis faire de la sensibilisation qui est adaptée aux gens, parce que c'est ça qui est prouvé qui fonctionne le plus. Donc, arrêter de faire des campagnes de sensibilisation at large comme ça, qui parlent à personne, que personne se sent concerné, donc personne n'écoute le message. C'était ça l'idée derrière. Donc maintenant, pour faire notre recherche, pour trouver ces grandes tendances-là, on s'est basé sur les données qu'on avait sur les victimes de kleptogiciels. Dans le fond, des victimes qui se sont faites voler toutes sortes d'informations sur leur ordinateur. Puis, on a un petit rappel de où est-ce qu'un, jusqu'à où un kleptogiciel peut se rendre. T'sais, on a les cookies de session, on a les mots de passe, les usernames, donc toutes les creds. Mais on a aussi les process qu'il y a sur l'ordinateur de la victime, toute la liste des softwares qui sont installés. On a aussi plein de documents là, t'sais, placés sur le bureau ou dans les documents. Donc, c'est... Puis, on a l'historique aussi de navigation de la personne. Donc, avec toutes ces informations-là, on est capable de faire un profil assez clair là, de qui est la personne et on peut aller très, très loin là-dedans. Olivier, est-ce que tu aimerais compléter? Okay. Non.
J'ai rien à rajouter. C'était parfait.
Bon, à partir de cette définition-là d'informations que vous collectez et l'objectif d'établir une forme de campagne de sensibilisation adaptée. Comment vous avez établi ces profils-là de victimes? Parce qu'effectivement, on reprend un peu, parce qu'on en parlait en off, le mime de, genre, si je meurs, efface mon historique de navigation, ce qu'on en a comme information, c'est assez intense. Puis comment vous avez dérivé à partir de votre jeu de données?
Donc là, pour ceux qui me connaissent ou qui m'ont déjà entendu parler, je suis toujours en train de parler de criminologie. Fait que ça a comme été basé sur plein de... Le background est vraiment très criminaux. Fait que ce qu'on est allé chercher dans les données, et puis on s'est pris un gros échantillon vraiment représentatif sur une année complète de victimes et tout ça pour pas que ça soit influencé par des campagnes ou quoi que ce soit. Mais sur notre échantillon, ce qu'on est allé chercher comme information, c'est par exemple, l'ordinateur est utilisé pour quoi? À des fins professionnelles, à des fins de divertissement. Est-ce que la victime va sur des sites qui seraient peut-être un peu shady, par exemple. On voulait vraiment aller chercher comme ça là, des grandes lignes de comportement qui mettent la personne à risque ou qui nous en disent plus sur le type d'utilisation de l'ordinateur. On est aussi allé chercher les variables démographiques là, pour nous donner une idée de l'âge, de l'endroit, de la location de la victime. Localisation, pardon, de la victime. Donc, on est allé chercher toutes ces variables-là pour essayer de caractériser là, t'sais, les profils comme ça, puis de faire des profils types de nos victimes. C'est
ça. Oui, et de ces profils-là que vous avez fait d'ailleurs, puis c'est fou parce que juste de ce que tu dimensionnes, de vos données, vous êtes capable quasiment de donner la couleur des bobettes de la personne avec qui, oui. Les personnes que vous avez là. Donc, vous connaissez la couleur les différentes couleurs de bobettes des différentes personnes qui sont là-dedans. Et ça ressemble à quoi ce la couleur des bobettes de ces personnes-là, finalement?
Euh, Ben en fait, je peux te parler peut-être des grands profils qu'on a vus là-dedans. Là, pour, quand on essaie de les regrouper ensemble, qu'est-ce qui les caractérise, qu'est-ce qui fait qu'ils ont peut-être mené à la victimisation aussi. Il y a d'abord ceux qui utilisent l'ordinateur pour du divertissement. Donc, ceux qui jouent à des jeux. Il y a plusieurs façons de se faire malheureusement avoir par un kleptogiciel parce qu'on joue à des jeux, ne serait-ce qu'en downloadant un jeu, que ça peut être, tu downloads un jeu de cartes, là. C'est pas obligé d'être le dernier jeu super à mode, là. Un jeu de cartes bien normal, tu downloads ça parce que tu t'ennuies de tes jeux vintage de ton ordinateur quand la vie était simple. Tu downloads ça, puis tu te fais avoir parce que c'est finalement un logiciel piraté qui t'a rien coûté, c'est ça. Il est infecté. Mais ça peut être aussi, tu joues à Roblox, puis tu veux un cheat ou tu veux un mod ou peu importe, puis là, tu te fais infecter par ça aussi. Il y a aussi la porn, toujours présent dans nos échantillons. On dirait que peu importe ce qu'on recherche, on va trouver quelqu'un qui consomme de la porn dans l'histoire.
Tu suivais l'argent ou suivais le porn, je pense que c'est relativement équivalent finalement, là.
Exact. Donc, il y a du monde qui se font avoir en téléchargeant de la porn. Donc, tout ce qui est divertissement, tu sais, ça rejoint un peu un profil de victime. Un autre profil, c'est peut-être, tu sais, si c'est pas toi qui joues, mais que tu partages ton ordinateur peut-être avec tes enfants, avec tes ados, c'est aussi un profil type qu'on a vu dans nos données. Après ça, il y a les gens techniques qu'on s'attendait pas nécessairement à voir dans nos données, mais qui étaient clairement présents. C'est d'ailleurs probablement le profil qui prend le plus de place, là, ou bon, peut-être. Il y a dans l'échantillon, il y a 82% des gens qui vont être considérés avoir des skills techniques. Fait que c'est un énorme pourcentage de l'échantillon.
Comment tu définis justement, comment vous réussissez à établir le fait que ce soit un skill technique? Là, je veux dire, moi, par exemple, disons, je me fais avoir. Comment vous êtes capable de définir que j'ai un skill technique, par exemple, sur ma machine, basé sur ce que vous avez dans vos données que vous ramassez dans les
Mais d'abord, il y a la présence de tooling technique, des affaires de développeurs, par exemple. Quand on a des softwares de développement, développeurs, en tout cas, comment on dit ça. Déjà, ça nous donne un indice. Mais là, on s'est basé sur plusieurs indices, puis on s'est aussi... tu t'en rappelles-tu?
Non, mais il y avait, dans l'historique, s'il y a du GitHub, s'il y a du GitLab, il y avait dans les logiciels installés, VS Code, toutes les IDE. Puis on a fait bien attention d'éliminer les runtime, C++, tout ça. Ça peut avoir l'air technique, mais tout le monde va l'avoir, ça, à cause que ça vient avec un logiciel. Fait qu'on a vraiment fait la distinction entre les deux. Donc, c'est ça, c'est souvent présence d'un IDE. Puis là, il y avait plusieurs IDE couverts. Puis des domaines liés aux développeurs.
Donc, selon votre définition, je tombe dans cette catégorie-là de personnes qui malheureusement ou heureusement utilisent GitHub et VS Code principalement.
Exact, c'est ça. Puis c'est pour ça que c'est important.
Et ton avantage technique.
puis c'est pour ça que c'est important que ce profil-là, en fait, c'était comme dans notre mission de le communiquer beaucoup. Tu sais, arrêtons de penser que ça ne nous concerne pas. Tu sais, on est habitués, nous autres, de downloader des affaires, des librairies, puis dans Python, puis tu sais, tout ça. Puis finalement, on se fait avoir parce que ça target exactement le comportement qu'on a puis qu'on trouve normal dans notre job, finalement. Donc oui, les personnes techniques sont très à risque, finalement, de se faire avoir aussi.
Oui, puis aussi, tu sais, il faut dire, on considère technique, mais pas cybersécurité aware, là, excusez-moi l'anglicisme, là, mais tu sais, c'est ça, pas. On a vraiment fait la distinction entre conscient de la cybersécurité puis technique, tu sais, parce qu'il y en a plusieurs personnes qui sont bons avec les ordinateurs, mais pas nécessairement conscients de l'écosystème de logiciels malveillants qui va te cibler. Fait que tu peux tomber à risque. Puis, tu sais, Andréane a donné des exemples de vecteurs d'infection, mais je vais en donner d'autres. Tu sais, il y en a beaucoup que c'est via des vidéos YouTube, il y en a beaucoup que c'est via des ads. Tu sais, un exemple, c'est arrivé chez nous, là, chez Flair. Il y a un développeur reçoit un laptop. Nous, on utilise Slack énormément. Il fait install Slack. Il clique sur le premier lien. Il l'installe. Puis, après avoir l'installé, c'est là qu'il fait comme « Oh, attends une minute, là, je suis allé vite. » Puis, je pense que c'était pas le vrai parce que j'ai eu un warning de que c'était non signé. C'est pas normal là, pour Slack. Là. Fait que là, la personne, elle a vérifié. Elle est retournée voir dans son historique. Elle a confirmé que c'était pas le bon Slack. Puis elle a wipé le laptop puis recommencé. Puis là, on parle de quelqu'un technique qui a juste voulu accomplir quelque chose puis a baissé sa garde. Heureusement, elle s'en est rendue compte. Mais donc, ça peut arriver à tout le monde, pour vrai. Puis c'est vraiment... Puis là, ça, c'est des Google Ads malveillants qui sont placés, qui ont une très courte durée de vie. Puis le malfaiteur cible. Tu sais, le malfaiteur, là, un Google Ads, il cible les gens. Là. C'est comme quel endroit géographique, quel démographique. Puis fait que donc, ils réussissent à maximiser des infections payantes.
Oui, ben, effectivement, là, on est tous propices à l'erreur de ne pas être vigilant. Et ça, on est des humains comme tout le monde. Puis là, vous semblez avoir aussi un profil cybersécurité que vous avez été capable de repérer dans votre dataset. Est-ce que tu laisses présager ou c'est juste le technique puis vous n'avez pas...
Non, c'est ça. Parce que mon point, c'était qu'on n'a pas ciblé la cybersécurité. On voulait technique. Parce que là, de dire comme toi, mettons, tu as VS Code, tu vas sur GitHub, GitLab, mais là, de faire la distinction, genre, comment est-ce que cette personne-là est cybersécurité technique ou non, ça devient plus difficile. Et si tu as des idées de filtres, on pourrait essayer de les implémenter, mais nous, disons, pour cette recherche-là, notre point, c'était qu'on voulait vérifier une hypothèse, à savoir, est-ce que les gens techniques sont moins victimes ou plus victimes? Puis on pense qu'ils sont plus victimes, ce qui est contre-intuitif de la plupart des programmes de sensibilisation à la cybersécurité.
Effectivement. Et de ça, puis je vais laisser continuer à parler de votre profil de victime, puis on reviendra après sur ces éléments-là.
Oui, j'ai perdu mon...
Parce que tu as 80% qui sont les techniques, là, mais il y a d'autres gens aussi. Là.
Il y a d'autres gens. Oui, j'ai parlé un peu de ceux qui jouent bon, pour le divertissement, qui utilisent leur ordinateur pour le divertissement, qui se font avoir. Donc là-dedans, il y a comme plusieurs sous-catégories, on va dire. Il y en a parmi eux, il y en a une portion qui vont avoir le faire à partir d'un ordinateur de job. Je l'ai souligné un petit peu tantôt, mais c'est comme un sous-profil des gamers. Donc, tu sais, il y a les jeunes qui jouent, mais il y a aussi les adultes avec une job qui jouent puis qui se font quand même avoir. Donc, utiliser son ordinateur personnel pour faire... utiliser son ordinateur de job pour des trucs personnels, ça peut être problématique. Quoi. Je pense qu'on est très au courant de ça puis on le répète beaucoup, mais le rappeler, ça fait partie de notre campagne de sensibilisation. Aussi... Avec des exemples.
Est-ce que l'exemple est aussi vrai de personnes qui, sur leur ordinateur personnel, accèdent à leur compte de travail aussi, ou c'était pas, vous n'avez pas la distinction dans vos...
Mais en fait, on voyait comme une espèce de dualité. La personne s'est fait infecter parce qu'ils jouaient à Roblox. Puis là, je fais de la mauvaise publicité pour Roblox, mais on s'entend. C'est pas, je connais pas tous les jeux non plus, mais mettons, exemple. Sur ce même ordinateur-là, il y avait des corporate access. Donc, on sait que c'est son ordinateur de job, puis qu'il l'a utilisé pour jouer à des jeux sur son temps personnel. Sur son temps personnel, peut-être même sa job,
bref, là, tu as des suppositions. Là.
Exact. Mais on sait qu'il y avait cette dualité-là. Puis l'autre dualité qu'on a vue aussi, c'est que il y en avait qui étaient sur leur ordinateur de job, encore une fois, mais qu'on voyait que c'était peut-être pas nécessairement la même personne. Donc, il y avait des ordinateurs partagés. Qui jouaient à des jeux puis qui se sont fait infecter par ce jeu-là, finalement. Donc, on est venu estimer, ou notre hypothèse était que c'est une famille, la personne a fini de travailler, peu importe, donne son ordinateur à son enfant pour qu'il puisse jouer, là, t'sais, je sais pas, t'es en vacances, peu importe. Puis ça, on s'en est rendu compte parce que les creds qui étaient collectés dans ce log-là avaient... il y avait plusieurs personnes, il y avait plusieurs noms, mais il y avait tout le même nom de famille. Donc, on savait que c'était plutôt une famille qu'une personne avec plusieurs identités, là, on comprend. Ouais. Donc, il y avait ça. Puis, il y a aussi, pas nécessairement, si on laisse tomber tout le truc de corporate access et tout, il y a les ados qui se font infecter par un jeu, puis qui... puis c'est ça. Donc, les game-related infections sont très, très présentes aussi, en même temps que les gens techniques. Quel autre profil qu'on avait? On avait...
Tu parlais de ça, peut-être?
Non. Est-ce que tu voudrais dire les deux derniers profils?
Oh, les deux derniers, là, tu me donnes une colle. Mais non, mais il y avait... Ouais, exact. Ouais, c'est bon. Supply chain. Donc, tu sais, supply chain, il a comme fallu un peu le hunter. T'sais, c'est-à-dire d'écrire un profil pour ça. Mais dans le hunting, ça devient clair quand tu analyses le log manuellement puis tu vois l'étendue des victimes. Donc, on pourrait décrire ça comme un ordinateur qui a accès à plusieurs systèmes de plusieurs tiers. Nous, l'exemple qu'on donnait dans la présentation, c'est un fournisseur en marketing digital, donc tu sais, SEO, optimization, marketing, bâtir des sites web. Donc, cette personne-là avait accès cloud à plusieurs accès cloud différents avec des différents sous-domaines. C'est comme ça qu'on a réussi à identifier la victime à travers les milliers de logs qu'on a analysés. Puis, quand une fois qu'on a trouvé les logs, là, on vérifie dans les autofills, puis là, on trouve plein de noms, plein de emails de plein de compagnies différentes. Fait que donc, où est le risque de supply chain? Bien, c'est que tu fais affaire avec cette agence-là sans le savoir, t'exposes ton Google Cloud ou ton Cloudflare directement via cette personne-là qui a été victimisée. Puis là, l'exemple qu'on donne dans la présentation, c'est que la brèche de Target d'il y a environ une dizaine d'années, là, 7-8 ans, qui avait été très médiatisée, dans le fond, ça aurait pu être un incident de type Stealer parce que ce qu'on sait suite au rapport de la réponse aux incidents, c'est qu'ils sont rentrés avec des creds déjà volés d'une compagnie de HVAC. Ils ont eu un accès interne. Puis comme la plupart des pentesters de v'là 10 ans auraient dit, une fois que tu es à l'intérieur, c'est terminé, c'est game over. C'est juste le temps de trouver le chemin vers le crown jewel, mais c'est le dedans est mou. C'est un peu moins le cas aujourd'hui, mais quand même. Mais donc, pour nous, ce qu'on voulait souligner là, c'est que les victimes d'InfoStealer représentent un supply chain risk pour les organisations. D'où pourquoi surveiller ces domaines pour des victimes de Stealer peut vous permettre de voir des tiers qui ont accès à vos systèmes qui ont été compromis, ce que vous ne sauriez pas nécessairement si vous ne le surveillez pas. Puis le dernier profil, c'est les threat actors eux-mêmes. Donc, je vais le traduire en français, là, les acteurs de la menace. Mais on dit ça...
Les méchants.
Non, mais on dit ça en blague chez Flair, mais on dirait que ça a écrasé le vrai nom que je devrais utiliser en français. Fait que je dis acteur de la menace, la joke a dépassé la réalité. Mais donc, dans les victimes de Stealer, de kleptologiciels, il y a des threat actors parce qu'ils s'attaquent entre eux. L'exemple où j'ai comme fait la réponse aux incidents, ou en tout cas j'ai analysé le log qu'on donne en présentation, c'est un FUD cryptor. Donc c'est un outil qui est FUD, c'est pour le slang de cybercrime pour dire fully undetected, donc bypasser les antivirus. Cryptor fait que c'est un packer. Dans le fond, c'est quelque chose qui prend un exécutable puis qui le rend pas détecté par les antivirus puis qui le rapetisse. Puis ça, tu vas utiliser ça généralement quand tu montes tes campagnes de Stealer. Fait que tu achètes ton Stealer, il vient pas nécessairement packé, il est détecté souvent si tu l'uploades sur VirusTotal. Fait que là, tu utilises un cryptor. Des fois, le fournisseur de Stealer va te le fournir, mais des fois, tu vas prendre un tiers parce qu'il est encore moins souvent détecté. Donc, cette personne-là a probablement essayé de tricher et d'utiliser un cryptor gratuit, mais ce cryptor-là était backdooré et donc a victimisé le threat actor. Puis, dans ces Stealers-là, souvent, on trouve d'autres Stealers. Fait que la personne, c'est un threat actor, il a des Stealers sur son desktop, dans ses documents, mais le malware va voler les Stealers en volant l'ordinateur de la victime. Puis souvent aussi, on a accès à de l'infrastructure. Donc, on a accès à des comptes Hetzner, à du Bulletproof Hosting, à des comptes Cloudflare à travers ça. Toutes les creds sont toutes dans le Stealer. Estelle Ruelland, qui travaille avec nous en recherche chez Flair, elle a fait une recherche, là, elle a appelé ça Malware Maestro, puis il y en avait un autre. En tout cas, elle a comme fait une présentation sur 3 threat actors qu'elle avait trouvés en faisant de la chasse dans les Stealers qu'on a chez nous. Donc, c'est un pattern assez récurrent, puis comme quoi les cybercriminels font pas attention. Des fois, c'est ça, c'est des outils de piratage qui sont backdoorés. D'autres fois, c'est logiciels piratés, des ads, drive-by. Donc, plusieurs différents vecteurs d'infection vont impacter ces gens-là. Ah oui, Andréane vient de me chuchoter à l'oreille un profil qu'on n'a pas couvert, c'est Le capitaine Galiddon. Ah oui, puis il y a aussi l'exécutif. Mais dans le fond, je vais les regrouper, là, ou en tout cas les combiner. Mais on a une catégorie de gens ou une catégorie d'outils qu'on avait identifié en regardant les Steelers qu'on trouvait louches ou qui méritaient attention. Puis c'est des tout ce qui est très pragmatique, genre Partition Recovery Software, Repair Tool, Resetter d'imprimante. Reset d'imprimante, j'avais jamais vu ça, mais j'étais comme, ça existe. Puis donc, c'est des utilitaires qui vont régler un problème ponctuel que tu vis en ce moment dans ton environnement informatique. Puis donc, une des victimes qu'on présente dans la présentation, c'est un Epson Reset Utility. Fait que soit c'est de la DRM sur les cartouches d'encre ou l'imprimante qui dit genre je veux plus imprimer, tourneur faible ou qui est juste buggé. Puis cette personne-là a probablement essayé plein de trucs, puis là elle est désespérée, fait qu'elle download n'importe quoi sur Internet, elle l'installe, puis elle se fait compromettre. Comment on a pu savoir ça? C'est via le screenshot au moment de l'infection du desktop. Et aussi dans le browser history, on voit des chaînes qui sont traduites dans Google Translate. Puis Google Translate le met dans l'URL. Donc, on voit qu'est-ce qui a été traduit. Puis, on voit aussi des downloads de Epson Reset Utility sur des URL qui sont très clairement malveillants. Donc, pourquoi on a appelé ce profil-là, on l'a appelé Captain Get Things Done. C'était l'idée d'Andréane, mais c'est vraiment quelqu'un qui vit un problème informatique, qui veut absolument régler le problème. Puis qui va malencontreusement s'infecter. C'est quand même assez facile à imaginer que ça arrive, là, tu sais.
Ouais, mais donc vous en avez vu assez pour en faire une catégorie?
Exact, ouais.
Wow.
Puis, c'est ça, avec donc Partition Recovery, tout ce qui a rapport avec les imprimantes, comme régler un bug, là, tu sais, défragmenteur, tu sais, des trucs comme ça. Ouais, on en a vu beaucoup. Puis, tu veux-tu faire l'exécutive? OK. Fait qu'un autre qu'on a appelé le Unlucky Executive. Fait que donc, ça, c'est... dans le fond, ça ressemble beaucoup au Captain Get Things Done, dans le sens, peut-être, on a assigné une... on a dit qu'ils sont moins sophistiqués techniquement. Tu sais, on voulait pas qu'il y ait de GitHub, GitLab dans leur browser history. C'est comme ça qu'on les a divisés. Mais beaucoup d'accès, incluant système de ressources humaines. Donc, le Unlucky Executive, il va avoir accès à des systèmes de ressources humaines, systèmes de comptabilité dans différentes organisations. Puis, dans son organisation, pardon. Puis, lui, c'est souvent drive-by download de Office piraté ou un truc lié à PowerPoint. Tu sais, c'est des ce qu'on a classifié comme business software, dans le fond, qui va être le vecteur d'infection. Quand on est capable de l'identifier, puisqu'on n'est pas toujours capable de l'identifier.
C'est très intéressant. Puis d'ailleurs, vous avez été capable de voir les vecteurs en plus d'infection puis de les classifier comme ça. Je pense qu'on a oublié de mentionner aussi le protocole de recherche, parce qu'Andréane a toujours un protocole de recherche très, très rigoureux. Puis justement, comment vous avez samplé les affaires, comment vous avez pris vos échantillons, comment vous avez fait. Puis ensuite, c'est quoi la démarche? Parce que là, on vient d'aborder vos différentes catégories. Sont à la fois très drôles ou très inquiétantes. Mais comment vous êtes arrivé justement, c'est quoi l'échantillon, puis comment vous avez le modèle de réflexion pour arriver à c'est juste le get it done, puis l'exécutif, puis ainsi de suite?
Oui, ben là, comme je disais tantôt, c'est bon, le random sample pour représenter bien une année complète de compromission. Mais après ça, ce qu'on est allé chercher, c'est des variables vraiment précise, là, comme je disais au départ, vraiment basé sur les théories en criminologie. Fait que mettons qu'on voulait savoir si, parce que, bon, en crimino, on va dire, quelqu'un qui est dans un environnement à risque a vraiment plus de chances d'être victimisé à son tour. Donc, par exemple, quelqu'un qui va sur un site vraiment, ben vraiment, ou un peu shady, mettons. Okay. Donc, ça, c'était une des variables. Est-ce que la personne fréquente un site shady ou pas? Donc, on a fait une liste de plein de sites shady, puis là, tu sais, le plein voulant dire une stupide liste. OK? Puis ça, c'est juste un exemple là, d'une variable. Puis on est allé, dans le fond, parser tous nos logs pour aller voir, tu sais, est-ce que oui ou non, cette personne-là s'est retrouvée à un moment donné, à un moment ou à un autre, sur un site un peu shady. Fait que ça, c'est un exemple. Mais là, après ça, on a fait ça pour plein de variables. Donc là, pour la variable, est-ce qu'il y a des activités professionnelles sur le. Dans le log. Est-ce qu'il y a des jeux, comme je disais tantôt? Tout ce les indices qui peuvent nous indiquer là, la démographie, là, l'âge à peu près, la localisation. T'sais, la localisation, on ne l'a pas basée sur l'IP, on l'a basée sur est-ce qu'elle est allée essayer de payer ses taxes au gouvernement brésilien. Ça nous donne un bon indice qui vient du Brésil, mettons, là, je dis n'importe quoi. Après ça, les autres, on avait est-ce qu'il y a la présence de software technique? Donc, c'était tout le temps des... On a fait comme une base de données avec oui, non, est-ce que cette chose, cet élément-là est présent ou pas. C'est comme ça qu'après ça, on a bâti là, les profils différents. Voilà.
Quand vous êtes arrivé justement sur tous ces indicateurs-là, c'est quand même une grosse masse de données que vous êtes arrivé. Et vous l'avez fait sur une période, je pense, d'un an, ce que j'ai compris.
Exact.
Jour 1, vous n'avez pas fait ce genre de sampling-là. Vous avez dû, en cours de chemin, ça a dû peut-être émerger ou il y a des profils qui ont dû émerger avec le temps, qui n'étaient peut-être pas là au début. Vous avez découvert comme genre justement le get done ou le unlucky exécutif, il est peut-être apparu en cours de recherche. Vous faites c'est bien drôle. Il y a des affaires de Epson qui traînent sur sa machine. Whatever, c'est quoi cette affaire-là?
Mm-hmm. Ben, en fait, on a comme fait l'échantillon à posteriori, dans le sens où on est rendu en 2026, on voulait une année complète, fait qu'on voulait que l'année soit finie, on a pris 2025, c'est quand on a commencé la recherche au début de l'année. Fait qu'on est, c'était des données qui étaient déjà collectées, puis on est allé piger un random sample dans ça. Bon. Fait que c'est sûr que, mais là, après ça, ben, on a fouillé, puis là, à un moment donné, on a trouvé toutes sortes de choses comme ça. T'sais, moi, pendant le temps que je faisais mes statistiques, voir combien de gens avaient tel élément dans leur profil, ben là, Olivier fouillait, puis trouvait des insights, puis après ça, moi, je vérifiais avec les stats. Fait qu'il y avait vraiment un travail back and forth. Là, on a investi pas mal de temps là-dedans. Mais il y avait vraiment la complémentarité de nos deux approches. Là, c'est le produit final, finalement, de découvrir ces profils-là.
Ouais, de toute façon, on avait de longues années de recherche ensemble. C'est pas votre première recherche commune. En ce sens-là, si on revient sur les résultats, parce que le volet contre-intuitif, que 80% sont du monde technique, qu'est-ce que vous en tirez de vos données, de ce que vous avez vu? Parce que, justement, comme vous l'avez dit, c'est contre-intuitif, mais comment ça se fait que celui-ci se retrouve sur-représenté dans ce qu'on aurait cru qui n'était pas le cas?
Fait que si je me lance dans les théories criminologiques, je vais dire qu'il y a deux mécanismes qui viennent jouer ensemble, qui viennent... qui sont présents les deux. Mais je voulais dire qu'ils intertwine, là, tu sais, je cherchais le mot en français, je sais pas. Bref, il y a deux mécanismes là-dedans. Le premier, c'est que déjà les victimes sont dans un environnement qui est considéré à risque. Okay? Par exemple, si tu es beaucoup sur les réseaux sociaux, puis tu es beaucoup dans le gaming, puis tu es beaucoup, tu sais, c'est un exemple que je prends, ben tu es dans un environnement où il y a des risques, parce que là, il y a des risques au niveau de downloader des mods, puis des cheats, puis des trucs comme ça. Okay? Fait que être dans un environnement à risque. Puis le deuxième mécanisme qui vient jouer son rôle, c'est le fait que tu as un comportement qui peut être à risque. Fait que il te faut les deux pour être victime, tu sais. Donc, puis là, donc, c'est de justement vouloir télécharger des trucs. Si tu achètes tout le temps ta petite cassette, ton petit CD, pas au dépanneur, là, mais dans le magasin de jeu, puis que tu arrives chez toi, puis que hors ligne, tu le mets dans ton lecteur, puis que tu joues à ton jeu vraiment hors ligne, tu sais, comme dans l'ancien temps, là. T'es pas vraiment dans un environnement à risque.
T'es vraiment au school, là.
Oui.
C'est même pas un CD, ta cartouche, tu rentrais, tu soufflais dedans, puis ça
c'est
rentrait.
C'est ça, là. Exact. Moi, je joue encore à ça, là. J'ai encore mon Genesis, puis je jouais. Puis tu sais, je le sais que je cours aucun risque dans cet environnement-là. Donc c'est d'être dans cet environnement à risque-là, mais aussi d'avoir le comportement qui va avec. Donc, de downloader, de cliquer, tout ça. Puis là, j'ai pris l'exemple des jeux, mais comme on disait l'autre exemple de tantôt, tu sais, quand t'es un professionnel qui est habitué, qui est technique, qui est habitué de downloader des librairies sur Python, puis qui est habitué de cliquer finalement, ou de faire des captchas, comme le nouveau ClickFix. Les threat actors, ils vont pas... Et, oui, des fois, ils sprayent un peu large pour essayer de prendre le plus de victimes possible, mais ils visent certains comportements, puis c'est exactement ces comportements-là, puis ils s'adaptent, ils adaptent leur technique à ça. Donc, c'est pas fait par hasard. Là. Ils ont social engineering, ton comportement, puis ils t'ont eu avec ça.
Sûrement, puis j'en profite, puis justement, le micro est en train de se transférer. Tu as parlé de Python, tu as parlé de choses comme ça. Est-ce que toute la vague actuelle qui est justement dans ces 8 pots-là qui existent, qui se font infecter de façon assez massive, est-ce que vous en avez vu dans vos recherches de ce chose-là? Ou tu peux dire ce que tu voulais dire avant, puis tu peux reduire après?
Ah non, on va aller à la dernière question. Non, mais donc, ce qu'on appelle Shai Hulud, là, un peu, là, dans le fond, les packages NPM, Python populaires qui se font backdoorer, puis que là, une fois que ça s'installe, soit dans le CI/CD ou sur le poste de développeur, que ça roule l'équivalent d'un info stealer, mais de dev, ça, on subit cette menace-là par les blogs, par la communauté de cybersécurité. Je suis ami avec François Proulx, il m'envoie constamment des liens à regarder. C'est une amitié intense, là, disons, en termes de cyber, de recherche. Donc on sait que ça existe. Est-ce que j'ai vu un log qui était clair que c'était un dev qui a eu une exfiltration de ce type-là? Je ne pense pas en avoir encore vu. Est-ce qu'il y en a dans notre collection? C'est possible. Mais je pense qu'il faudrait qu'on se mette en... Parce qu'on en a 150 millions de logs, là. Je pense qu'il faudrait qu'on se mette en mode vraiment threat hunting pour essayer d'en identifier un. Parce que de la nature... Ça fonctionne très différemment du stealer traditionnel qui exfile sur Telegram, qui est une application Windows complète. Je ne suis pas certain. Tu sais, Shai Hulud, le 1 ou le 2, l'exfil était fait via GitHub dans des repos encodés en base 104. Donc ça, c'est vraiment pas là où nous, on fait notre surveillance. Ce qu'on a fait pour nos clients, c'est qu'on a ajouté, on a crawlé GitHub, puis on les a injectés a posteriori, une fois qu'on a connu le tradecraft, on les a mis dans Flare a posteriori sous Emerging Sources, Shai Hulud. Mais donc ça a été fait manuellement parce qu'on a fait de la vigie sur cette menace-là. Est-ce qu'il y en a qui se ramassent sous forme zippée dans Telegram, puis ça donne que ces channels-là, on est infiltré dedans? Je sais pas.
C'était une question comme ça, puis c'est intéressant de toute façon. Puis oui, je parle aussi avec François. J'ai peut-être pas le même degré d'amitié que tu peux avoir, mais c'est pour ça que je posais la question, parce que ça roule ces discussions-là sur ce qui se passe de ce côté-là.
C'est super intéressant. Puis moi, j'aime beaucoup qu'il a fait un outil qui fait une simulation de Stealer. Je sais pas s'il est public. Je pense que oui. C'est un de ces trucs, là, Poutine ou Bacon ou je sais pas quoi.
Bagel.
Ouais, un bagel, ouais, ça doit être bagel, mais en tout cas, tu sais, ces affaires restent super montréalaises, là, mais ou québécoises, mais ça, j'aime vraiment cette approche-là, tu sais, de simuler ces attaques-là, comme ça, les organisations vont pouvoir voir, OK, ça va être quoi l'impact quand ça va m'arriver. Je pense que les compagnies devraient faire attention pour changer leur comportement. Par exemple, essayer d'avoir le moins de clés d'API possible. Tu sais, on a pris l'habitude de tout mettre nos clés d'API dans des variables d'environnement. Mais là, il faut se rendre compte que si c'est si facile que ça de se faire compromettre par une attaque de style supply chain développeur, il faut peut-être essayer de ne pas avoir de clé d'API. Puis là, les solutions pour ça, c'est des proxys qui injectent les variables d'environnement au niveau du proxy. Comme ça, ton application, elle consomme un API via un endpoint REST que t'es authentifié parce que t'es nous autres, chez Flare, c'est Tailscale qu'on utilise, les headers sont injectés automatiquement. Là, je trouve qu'on réduit comme une classe d'attaque complètement. Il n'y a plus de risque nécessairement associé à la fuite de clés d'API au niveau du développeur. Mais en contrepartie aussi, on peut être plus en mode réactif puis commencer à monitorer pour les non-human identities, qui est le buzzword en ce moment, au titre de la prochaine année, là, si ces attaques-là continuent.
Totalement. L'objectif de votre recherche, c'était d'aller vers de la sensibilisation adaptée. Qu'est-ce que ça ressemble, cette dite sensibilisation adaptée? Là, vous me l'avez montré, là, mais ça, on peut pas faire ça avec le micro. Mais et comment vous êtes arrivé à justement adapter cette sensibilisation, puis j'ose espérer va arriver à un résultat pour aider le 80% de gens un peu trop techniques, peut-être un peu arrogants, j'ai l'impression, les gens techniques aussi, là, tu parlais des deux facteurs. Je pense que l'arrogance en fait partie aussi. Moi, je sais comment ça marche, je download ce que je veux, là, ce qu'on voit souvent. Mais bref, le résultat qui sort de ça.
Ouais, ben on a essayé, tu sais, parce que là, on a beau avertir, tu sais, dire qu'est-ce qu'on a trouvé, tout ça, ça fait tout le temps un peu peur. On dit tout le temps, c'est, ben, on dit pas ça, mais ça peut avoir l'air de comme, c'est de votre faute, on met ça sur votre faute. Puis c'était pas ça qu'on voulait. On voulait plus aider. Puis on s'est dit, ben, on va contribuer au développement des campagnes de sensibilisation. Fait que là, on prétend pas avoir fait une campagne très large et complète. Mais ce qu'on voulait surtout, c'est d'inspirer un peu les compagnies à faire leur propre campagne de sensibilisation. Fait qu'on a fait des modèles des exemples, tu sais, basés sur les statistiques. Fait que là, sur un poster, on va avoir une statistique vraiment concrète qui était issue de nos recherches. Par exemple, 50% des gens qui se sont fait infecter en downloadant un business software, donc vraiment utile pour le travail. Voyons, c'est quoi la stat? 50%. Je sais, je m'en allais avec ça. 5... Ben voyons. Ça va me revenir, OK? Fait qu'on a une belle stat puis pour, t'sais, pour montrer un peu l'impact, puis où la... Puis la prévalence. Puis après ça, on a un slogan, tu sais, du genre look like business software, but acts like a spyware. Tu sais, juste pour. Puis avec une belle petite image, tu sais, bon. C'était surtout des exemples qu'on voulait donner aux gens. Puis ce qu'on veut dire par là, c'est le point à retenir, c'est que prendre des exemples concrets, bien, ça parle bien plus aux gens, tu sais. C'est ça, ils se sentent plus interpellés. Donc là, puis il y en avait d'autres qui concernaient, par exemple, les gens techniques. Là, t'sais, donc, vos connaissances techniques peuvent aussi être votre tendon d'Achille, finalement. C'est pas de même qu'on dit en français, c'est ça? Un tendon d'Achille?
Talon.
Ouais.
C'est
votre talon. Talon
le tendon, c'est quand il déchire, c'est moins le fun. Mais maintenant, on parle de talon sur le point faible.
Le talon d'Achille. Donc, votre faiblesse, finalement. Ça peut, donc, ce que vous pensez être votre avantage est en fait votre faiblesse. Donc, c'est tout. C'est ça. C'est des slogans comme ça qu'on voulait transmettre, qui restent un peu en tête, puis qu'on peut afficher comme ça, puis qui nous parlent plus que. Mais c'est, donc, c'était là qu'on s'en allait, puis on en a fait 6. Puis, tu sais, c'est sur notre blog, on a fait un blog post, puis on a tout mis les posters en PDF que les gens peuvent utiliser si ça leur tente. Mais c'était surtout pour les inspirer, puis qui créent leur propre poster.
Ah, ben, je vais mettre le lien vers votre blog, justement, sur les notes de l'épisode, justement, si les gens veulent aller les chercher, parce que ce que vous m'avez montré, j'ai trouvé ça très, très intéressant. Ça a cette espèce de saveur semi. Là, je dirais pas ce qu'Olivier a dit en off là, par rapport à ce qu'il disait. Quand il était très jeune, par ailleurs, là, fait, je trouve ça un peu étrange. Mais bref, ces posters-là de sensibilisation qu'il y avait quand on allait chez les médecins, il y a très, très longtemps, qui permettaient justement de frapper l'imaginaire, puis que ça nous reste collé là pour que ça fasse changer un changement de comportement. Là.
C'est ça, tu sais, l'objectif, c'était une stat concrète sourcée de quelque chose qui est, tu sais, qu'on a vu, là, qui n'est pas un truc marketing inventé, dans le fond. Puis...
3 personnes sur 5 inventent ces statistiques.
Ouais, c'est ça. Après ça, comme un message un peu compréhensible ou digeste là, par la plupart des employés. Mais tu sais, quand même, on a en tête les travailleurs qui travaillent sur des ordinateurs. Là, on pensait pas comme à du monde dans le manufacturier ou des trucs comme ça. Mais un des posters que j'aime beaucoup, c'est ça, la statistique, c'est 26% des victimes de kleptogiciels ont des accès à de l'infrastructure de compagnie. Tu sais, là, c'est pas juste... corporate, là, c'est pas juste email corporatif, là, c'est infra, donc cloud, tu sais, système TI, etc. Fait que, tu sais, c'est quand même 1 sur 4, c'est énorme, là, à mon avis. Puis là, ça, c'est comme la petite statistique réelle. Ensuite, la catchphrase, disons, c'est l'utilisation personnelle de votre ordinateur de travail can topple the company, donc peut faire tomber, peut faire basculer la compagnie. Puis l'idée ici, c'est de conscientiser. Puis là, on vient de parler d'utilisation, tu sais, de croiser, tu sais, logiciel piraté ou gaming ou pornographie avec l'ordinateur de job, souvent pendant qu'on est sur la route. Tu sais, puis c'est ça l'espèce de portion, tu sais, concrète. Puis par rapport à la sensibilisation, un autre truc que je voulais dire, c'est dans notre conclusion, là. T'sais, en fait, dans l'intro, on dit qu'il n'y a rien de mieux qu'être exposé à un pattern de fraude pour ne pas tomber victime d'un pattern de fraude. C'est vraiment comme la prémisse de la présentation. Quand on a voulu bâtir ça, on s'est dit, tu sais, C'est parce que les gens savent pas que ça arrive, qui sont victimes d'info-stealers. Pourquoi ils savent pas? Parce qu'ils savent pas comment les info-stealers infectent le monde, tu sais. Si on est 8 milliards sur la Terre, nous, on en a collecté 150 millions d'info-stealers. Donc, ça reste très marginal. Là. C'est pas quelque chose que tout le monde vit dans sa vie. Donc, on se disait...
J'espère que c'est pas... Dans les faits, c'est j'espère que le monde ne le vive pas, mais en même temps, il faut frapper l'imaginaire pour... tu sais, je veux dire, c'est comme toutes les campagnes de sensibilisation qu'on a, c'est pas pour... On espère que les gens ne le vivent pas, mais de justement les aider à ne pas le vivre aussi. Là,
exact.
Comme vacciner, là.
Fait que là, donc, sachant ça, si tu es au courant d'une fraude, tu vas moins tomber susceptible à la fraude. Donc, si tu es au courant de comment les info-stealers font des victimes, tu as moins de chances de tomber victime. Puis là, nous, notre conseil qu'on donne en fin de présentation, c'est oui, on vous a donné des posters que vous pouvez mettre dans la salle de bain, dans la cuisine de la compagnie, mais est-ce que vous devriez pas, dans vos campagnes de sensibilisation d'employés, inclure une anecdote d'info-stealer qui est arrivée soit à quelqu'un chez vous ou un supply chain. Puis là, ça devient, les choses deviennent immensément concrètes. Imaginez là, si, tu sais, les développeurs dans une institution financière, là, il y en a des milliers. Là. Imaginez si tout d'un coup, dans leur campagne de sensibilisation, il y a, c'est arrivé à un de vos collègues, genre, il a installé un package pour régler un problème, il a fait ça vite. Il s'est fait compromettre et tout ça a été exposé, tu sais, avec le nombre de secrets ou avec le type de secrets, mais super, j'ai le mot juste en anglais, relatable, là, super, qui parle, là, qui touche, que tu te sens concerné, exactement, merci Andréane. Là, je pense qu'on est à un autre niveau de sensibilisation, tu sais, puis c'est un peu ça, puis les campagnes de sensibilisation, moi chez Bell, là, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas travaillé là que je peux raconter. On appelait ça le petit chevalier. Okay? C'était en 2007, là, 2006. C'était un petit chevalier.
C'était avant ou après les hautes de vannes?
Les hautes de vannes, c'était avant ça. Là, c'est avant de, c'est 2000. Mais donc, le petit chevalier, là, c'était le petit chevalier, il y a le périmètre, c'est l'eau autour du château. Puis là, il faut faire attention à ce qu'on rentre dans le château. Tu sais, je veux dire, tout le monde s'en torchait. Puis une fois que tu l'avais fait une fois, tu avais appris par cœur les réponses, puis tu cliquais le plus vite que tu pouvais à travers ça. Puis ça, tu sais, t'es obligé de passer à travers les vidéos, donc ça te ralentissait. Mais personne ne retenait rien. Si tu arrives avec des trucs qui est arrivé à des collègues ou qui est arrivé proche de soi, je pense que la campagne va être beaucoup plus efficace. Fait que c'est un peu aussi ça. T'sais, vos campagnes devraient, oui, devraient avoir la clé USB dans le stationnement, mais devraient aussi avoir le info stealer dans les apprentissages.
Cool. Est-ce que vous avez quelque... Je trouve que ça fait un bon rapport parce que André, tu veux rajouter un mot de la fin où Olivier a vraiment saisi le moment. Là. De sa face, clairement, Olivier a saisi le moment. Fait que...
Non, moi, j'ai une bonne question pour Andréane. Andréane, c'est quoi ton prochain sujet de recherche que tu peux parler?
Ah, j'ai mis que tu peux parler.
Mais rapidement, parce qu'on conclut avec Estelle, justement, notre collègue qui nous a aidés pour cette recherche-là, puis avec les outils. Ce qu'on essaie de faire, c'est d'essayer de prédire les campagnes de kleptogiciels qui vont s'en venir. Donc, comme ça, on peut un peu être en amont puis avertir les gens. T'sais, celle-là est très populaire en ce moment, mais tu sais, il faut tout le temps être très vite pour ça parce que les campagnes ne durent pas très longtemps. Donc, on travaille vraiment fort pour essayer d'être le plus en amont possible puis avertir les gens d'avance.
Cool. Je suis toujours très fan de vos recherches. Je trouve ça toujours très le fun. Au Québec, il y en a tellement peu de recherches qu'on fait là-dedans que quoi? Toi aussi, go!
Je ne savais pas si tu voulais wrap up ou...
Non, mais vas-y, c'est okay. Juste, tu donnais comme c'est elle...
Non, mais parce qu'Andréane, on travaille ensemble, mais des fois, on fait des projets chacun de notre bord. Là, son projet, c'est avec Estelle, puis là, moi, j'ai mon petit truc aussi.
Vous allez visiter d'autres jardins?
Ouais, exact. Non, mais on a d'autres collaborations. L'équipe de recherche est quand même grosse chez Flair. Là. C'est ça, avec moi, je suis en train de faire un outil de réponse aux incidents qui fonctionne avec les Stealer Logs. Donc, en cas de réponse aux incidents ou par votre fournisseur de Threat Exposure Management, vous avez accès à un Stealer Log qui vous concerne ou qui concerne un tiers, un de vos tiers, un supply chain.
Vous le mettez dans cet outil-là et l'outil va vous dire c'est quoi le vecteur d'infection selon une analyse basée par les LLM et va, il y a une section qu'on appelle « Supporting Evidence ». Donc, va dire « J'ai analysé toutes les dizaines de milliers de lignes historiques, mais je crois que c'est ça le vecteur. » Donc, ce que j'aime de cette approche-là, c'est une approche qu'on ne dit pas remplacée par l'IA, on dit augmentée par l'IA. Donc, l'analyste a les mains sur le volant, il s'en va directement vérifier lui-même l'artefact pour être certain que la conclusion est bonne. Donc, puis ça, on espère que ça va accélérer la réponse aux incidents. Puis là, il y a déjà l'idée suivante, c'est le blast radius de l'exposition. Donc, tu es en mode ailleurs, tu veux savoir qu'est-ce qui s'est passé pour pouvoir faire du hunting dans ta compagnie, fine. Mais maintenant aussi, c'est de faire comme, OK, mais qu'est-ce quoi d'autre qui est exposé dans le log que je devrais valider le plus vite possible? Donc, cet outil-là, il est développé, il est déjà comme semi-public. Puis, c'est tellement sensible parce que les méchants pourraient s'en servir que notre approche, c'est on veut le faire sur notre Discord. Je fais une petite plug de notre communauté Discord éducative, pas de marketing, qui s'appelle Flair Academy. Qu'à partir de là, si vous êtes un verified practitioner, on a un rôle pour ça. Donc, on a un appel avec vous pour vérifier que vous travaillez bien en cybersécurité puis que vous êtes blanc ou gris, disons. White hat ou gray hat, pas de black hat. Et donc, une fois qu'on vous a vérifié, vous avez accès, puis c'est de l'authentification du tool via GitHub. Via Discord, pardon. Donc, pas de PII accumulé sur vous. Du moment où on vous a vérifié, vous pouvez y avoir accès. Donc l'outil va être rendu public dans les prochaines semaines. Je travaille là-dessus très fort, puis je voulais que les gens le sachent vu qu'on est sur le sujet.
C'est cool. Ben, je reviens encore comme j'étais en train de rapper, mais que tu avais gardé une petite carte cachée dans ta manche. J'aime vraiment beaucoup ça parce que ça fait longtemps, vous deux, que vous faites de la recherche au Québec, que vous exposez votre recherche. Moi, je m'en sers beaucoup dans mon travail. J'espère que ça sert aussi dans le travail des autres. Puis maintenant, c'est des outils encore, que ce que tu viens de mentionner là, encore plus concrets dans ce qui va plus me servir dans mon travail. Donc, d'avoir de lire la recherche puis de m'en servir pour augmenter mes réflexes. Mais maintenant, je vais potentiellement avoir des outils qui vont m'amener plus loin. Je lève mon chapeau, c'est fantastique. Puis plus il va en avoir, mieux ça va être. Là. Merci énormément à vous.
Merci.
Merci.